Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes la classe des 7-8-HO d'Émilie Fazel. Bienvenue sur Radio Mombrello, la radio où il fait toujours beau.
Nous sommes Lou et Valentino et nous allons présenter l'émission en première partie, puis ça sera Philemon et Aurélie Rose qui prendront l'antenne en deuxième partie d'émission.
C'est parti pour une heure d'émission. Au sommaire, des interviews et divers pubs et chroniques. On enchaîne directement avec Mélanie, Eva et Charlie qui vont interviewer la pompière Marie Boin.
Une pompière? Tu es sûr que ça se dit?
Eh ben non, mais on lui demandera.
Radio Mombrello, il y fait toujours beau.
Bonjour, aujourd'hui nous allons interviewer Marie Boin qui est pompier professionnel.
Bonjour Marie Boin, merci d'être venue aujourd'hui. Avant de commencer, pouvez-vous vous présenter en quelques mots?
Oui, bonjour. Alors écoutez, effectivement, je suis sapeur-pompier professionnel à la ville de Genève depuis 8 ans maintenant. Avant, j'étais sapeur-pompier de Paris et avant, j'ai fait mes études en France. Voilà, je suis française.
En fait, on dit une pompier ou une pompière?
On peut dire les deux comme on a envie, mais c'est vrai que sapeur-pompier, ça va très bien.
Depuis combien de temps pratiquez-vous ce métier?
Alors, ça fait 8 ans, oui.
Votre métier vous intéressait déjà quand vous étiez plus petite?
Oui, alors j'ai commencé quand j'avais 17 ans, j'ai fait sapeur-pompier volontaire. Alors, ça marche pas tout à fait de la même façon en France, mais c'est un petit peu sur le même principe. Voilà, donc j'étais jeune, j'ai commencé par ça, donc c'était pas mon métier au début. Et puis ça m'a beaucoup intéressée, ça m'a beaucoup plu. Du coup, j'ai décidé d'en faire mon métier.
Avez-vous eu la même formation que les hommes?
Oui, exactement la même. Il n'y a pas de différence homme-femme.
Qu'est-ce qui a été dur pour vous pendant votre formation?
Le plus dur pour moi, je pense que ça a été de tout recommencer à zéro, étant donné que j'étais déjà pompier avant. J'ai dû refaire toute la formation qui dure quand même beaucoup plus longtemps qu'en France. Donc pour moi, c'était le plus compliqué de devoir tout recommencer à zéro.
Êtes-vous la seule femme dans la caserne?
Non, alors on était deux jusqu'à quelques mois et on a eu deux nouvelles femmes qui sont venues nous renforcer il y a quelques mois, donc on est quatre.
Est-ce que ça a été dur d'être admise dans la caserne en tant que femme?
Pas du tout, non, ça s'est très bien passé à Genève. C'est vrai que les gens sont très ouverts et puis j'ai réussi à faire ma place très vite. On compte tout de suite sur nous et puis on fait tous le même métier. Donc on peut se compter les uns sur les autres, il n'y a pas eu de problème à ce niveau-là.
Pourriez-vous nous décrire une journée à la caserne?
Oui, alors on commence par une prise de service où on se met tous en ligne pour voir si tout le monde est là. Ensuite, on travaille dans différents services pour que la caserne tourne, si on veut. On a chacun des services différents. Ensuite, on a des séances de sport qui sont planifiées. Donc, on va en petits groupes faire du sport. Ensuite, on continue dans les services. Évidemment, au milieu de tout ça, il y a les interventions. Donc, c'est de toute façon les interventions qui priment. Ensuite, on a le repas tous ensemble. On reprend à 14h dans les services, où des fois, ça arrive qu'il y ait des réunions ou des choses particulières à faire. À 16h30, on a de nouveau possibilité de refaire du sport. Et puis le soir, c'est libre. Et puis on dort la nuit en caserne, donc on fait des services de 24 heures. On commence à 7h et on finit à 7h le lendemain matin. Et voilà. Et puis au milieu de tout ça, il y a évidemment les interventions. Et puis parfois, on n'a pas le temps de faire autre chose que des interventions. Et parfois, on a le temps de faire que autre chose que des interventions. Ça dépend des jours.
Votre mari travaille dans la même caserne que vous. Comment faites-vous pour la garde de vos enfants?
Alors en fait, il y a trois casernes à Genève et puis on vient de changer de façon de travailler il y a un mois, donc c'est tout nouveau. On n'a plus du tout les mêmes horaires, du coup on ne travaille pas les mêmes jours. Donc pour nos enfants, on s'organise comme ça, on se croise et puis on les garde chacun notre tour.
Vous pouvez nous raconter une anecdote qui vous est arrivée?
En intervention ou...
Comme vous voulez.
Oui. C'est difficile parce qu'il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'interventions. Une anecdote rigolote ou...
Je sais pas trop.
En tant que femme?
Oui.
Ouais. Oui, une fois, on est allé sur une intervention pour relever une petite dame comme ça nous arrive souvent de faire ça, des gens qui tombent chez eux, par exemple la nuit ou la journée, et puis ils n'arrivent pas à se relever. Donc on était toute une équipe, et puis c'est vrai que la dame, elle avait besoin d'aller aux toilettes. Et quand elle a eu fini, elle nous a appelés. Et on s'est regardé avec les trois collègues, et puis j'ai bien compris que c'était à moi d'aller m'occuper de la petite dame. Parce qu'ils ne se sentaient pas de le faire, donc voilà. J'ai tout de suite compris qu'ils attendaient que ce soit moi qui le fasse, je pense, parce que j'étais une femme, voilà.
Est-ce que vous vous rappelez du premier feu que vous avez éteint ?
Non, je m'en souviens pas vraiment. J'en ai fait quelques-uns, donc c'est vrai que les grosses interventions, on s'en souvient. C'est vrai que les petites, un petit peu moins. Et...
Les pompiers, ça ne fait pas qu'éteindre des feux. Que faites-vous d'autre ?
Non, effectivement, ouais. C'est même pas la grosse majorité du travail. Alors, on s'occupe de tout ce qui est animaux, sauvetage d'animaux. Justement, les relevages de personnes, par exemple, qui tombent chez eux. On fait aussi tout ce qui est inondation. Quand il y a des tempêtes, on va couper les branches des arbres. Beaucoup de prévention aussi de risques qui pourraient arriver. On fait beaucoup d'alarmes automatiques. Je ne sais pas si vous connaissez, dans les entreprises, ils sont obligés de mettre des détecteurs en cas de fumée ou de chaleur ou autre qui se déclenche. Et on en fait beaucoup. Donc après, c'est justifié ou non, mais c'est une grosse partie du travail aussi. Évidemment, on fait des feux quand même. Et puis on fait tout ce qui est sauvetage aquatique, on fait du sauvetage sur corde, avec comme les gens qui font de l'escalade si on veut, mais on utilise des cordes quand on n'a pas d'autre accès. On évacue les gens aussi parfois avec les échelles sur des demandes des ambulances qui ne peuvent pas les évacuer autrement que par l'extérieur parce que les gens doivent rester allongés par exemple, ou des personnes qui sont en arrêt cardiaque, il faut le faire rapidement, donc ils font appel à nous. Voilà, on intervient avec la police souvent aussi, et puis sur différentes interventions, voilà, plus ou moins drôles. Et puis voilà, c'est quand même très varié. On fait des choses très variées.
Comment vous imaginez-vous dans 10 ans ? Vous êtes toujours pompier ?
J'espère. J'espère que je serai toujours en forme. Je suis encore jeune, donc. Mais oui, je serai toujours pompier, oui, je pense. Après, on a des possibilités. Au sein de la caserne, de pouvoir changer de poste ou de responsabilité ou autre, ce qui fait qu'on est moins sur le terrain. Voilà, il y en a qui ont envie d'évoluer comme ça pour leur carrière. Et puis, ça dépend des gens, après.
Merci pour votre participation, c'était très intéressant.
Au revoir.
Avec plaisir, au revoir.
Zinedine Zidane face à l'équipe du Brésil. Ce soir tu me souris, même Monica Bellucci. J'ai sorti le gros gamin, ce soir je suis le prince de la ville. J'ai mis mes plus beaux tissus, appelle les paparazzi. Ce soir je suis intouchable, je danse comme au Marcy. Le sol le salue, même Michael Jackson me dit merci. Le DJ me fait une passe et boum dans la nuit car sors de la piste, fais le grand écart de Van Damme. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien. Si tu me parles, rien. Si tu me touches, rien. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Car moi ce soir je suis en feu. Je suis en feu, je suis en feu. Je suis en feu. Je suis chaud, je suis chaud. Je suis chaud, je suis en feu. L'équipe d'Algérie en Coupe du Monde au Brésil. Ce soir je suis un warrior, appelle-moi Stephen Curry. Je sors de 2 heures de sport, amène-moi des tirineurs. Comme ce grand blondiné énervé contre Freezer. Ce soir je ne joue pas mais je repars avec les trophées. Tu m'appelais Kirikou, ce soir je suis John Covey. Comme la sœur de Beyoncé dans l'ascenseur avec Jay-Z. Ou comme mes trois petits à 6 heures du mat sur mon lit. Je sens que je vais briller. Ce soir je marche sur l'eau. J'ai l'impression de planer. Regardez d'un hublot. Si tu me croises, rien. Si tu me parles, rien. Si tu me touches, rien.
Merci Marie Boin. Heureusement qu'elle était là pour éteindre le feu de Soprano. Salut Valentino, que fais-tu ?
Je lis un livre, mais malheureusement, je l'ai bientôt fini.
Ah mais tu sais, il y a des boîtes à lire à l'école de Mombrello. Quand tu as terminé un livre, tu peux le poser et en prendre un autre à la place.
Oh super ! Est-ce que je peux trouver des boîtes ailleurs ?
Oui, il y en a aussi une à la place jaune de Mombrello et à la place de jeu à Otavo.
D'accord, merci beaucoup.
Continuons maintenant avec notre chronique sur les entreprises de la région présentée par Lia, Amy et Nathanaël.
Radio Mombrello, il y fait toujours beau.
Bonjour.
Salut.
Ça va ?
Non, cette nuit il faisait trop froid.
Et toi, Lia ?
Non, car j'ai pas réussi à dormir à cause de la tempête de cette nuit. Ma table s'est envolée dans le champ d'à côté.
Moi, c'est mon store qui s'est cassé. Vous connaissez pas une entreprise de store ?
Oui, j'en connais une. Elitech, qui en vend plein.
Savez-vous son adresse ?
Non, j'ai oublié. Mais par contre, je sais que c'est à Payerne.
Moi, je peux te la dire. C'est la rue La Palace, C11 1530 Payerne.
Merci. Comment vous savez tout ça ?
C'est notre toto qui travaille là-bas.
Ah ok, depuis combien d'années il travaille à Elitech ?
Il y travaille depuis 8 ans.
Est-ce que ce serait votre oncle qui va me vendre un store ?
Non, je pense pas. Son poste est gérant.
Tu sais combien de stores il vend à peu près dans l'année ?
Il vend à peu près 3000 stores par année.
D'accord. Peux-tu me faire un bref historique de l'entreprise ?
Oui, je peux. Elitech a été fondée en février 2002 et la succursale de Payerne en juillet 2012. Ils sont spécialisés dans les stores à lamelles, des stores toiles, des pergolas, des moustiquaires ainsi que tout type de store intérieur.
Merci à tous. Grâce à vous, je pourrai enfin dormir tranquille.
Au revoir.
No more. I'm gonna take my horse through the old town road. I'm gonna ride till I can't no more.
I got the horses in the back, horse stock is attached. Head is matte black, got the bushes black to match. Riding on a horse, ha, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been up off that porch. Now, can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Riding on a tractor, lean all in my bladder. Cheated on my baby, you can go and ask her. My life is a movie, bull riding in boobies. Cowboy hat from Gucci, Wrangler on my booty. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Nobody tell me nothing. You can't tell me nothing.
Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. Hat down, cross town, living like a rock star. Spend a lot of money on my brand new guitar. Baby's got a habit. Rings and Fendi sports bras. Riding down Rodeo in my Maserati sports car. Got no stress, I've been through all that. I'm like a Marlboro man, so I kick on back. Wish I could roll on back to that old town road. I wanna ride till I can't no more. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road.
Maintenant, Anaïs, Noémie, Dylan qui vont interviewer Katharina Rufnart sur ses sculptures sur bois.
Radio Mombrello, il y fait toujours beau.
Bonjour Katharina.
Bonjour.
Merci d'être en classe avec nous ce matin. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur vous ?
Alors, d'origine, je suis bernoise. Je suis maman de deux enfants, grand-maman de six petits-enfants et j'ai travaillé comme artiste indépendante.
D'accord, cela explique votre accent suisse-allemand. Oui. N'hésitez pas à nous demander de répéter quelques questions.
Alors, je vous demande de parler trop rapidement, s'il vous plaît. Je suis bernoise.
Qu'est-ce qui vous a poussé à commencer la sculpture?
Alors, j'étais créative pendant toute ma vie. La première création était à 17 ans. C'était des marionnettes en fil en bois. Après, j'ai tout essayé, ce qui existe, plus ou moins. Les matériaux qu'il y a partout, j'ai toujours essayé de trouver des choses que je ne connaissais pas encore. Et finalement, c'est le bois qui m'a intéressée le plus.
Et qu'est-ce qui vous plaît dans la sculpture?
Qu'on peut essayer de trouver des personnages qui se sont cachés dans les troncs. C'est très intéressant.
Qu'est-ce qui vous inspire pour faire vos sculptures?
Voilà, j'ai toujours eu des arbres entiers. Je les ai mis à côté. Je les ai tournés autour pendant une année, parfois plus, juste qu'il y avait quelqu'un qui m'a regardé. Et si j'ai vu ces personnages, ces visages, et j'ai vu que c'est possible de les finir, que c'est vraiment une possibilité, je pouvais commencer à travailler.
Et faites-vous d'autres choses que la sculpture?
J'ai aussi fait la peinture, j'ai fait différentes choses. Et j'ai travaillé la poterie, j'ai fait des tableaux avec les ficelles teintes par des couleurs naturel. Alors, comme j'ai dit, j'ai un peu tout essayé.
Est-ce que vous avez réussi à en faire votre métier?
Oui, pendant 20 ans, j'ai vécu de mon travail. Pas toujours très bien, mais j'ai survécu jusqu'à maintenant.
Ce n'est pas trop dur de vivre dans la sculpture?
Voilà, le plus dur est finalement si on n'a aucun mètre carré à soi-même qui appartient à nous. Et on a des troncs à mettre à côté pour sécher, parce que le bois, c'est très vivant, ça travaille. Alors, c'est très difficile de trouver des places. Et en plus, que j'ai commencé à travailler à la tronçonneuse, comme une des premières femmes, je pense, ça fait du bruit. C'est pas pour tout le monde comme voisin, pendant des heures, avoir ça, c'est pas rigolo, hein. Alors j'étais toujours très contente de trouver des amis ou des paysans ou des autres gens qui avaient une vieille grange ou un truc où je pouvais travailler.
Combien de temps faut-il environ pour faire une sculpture?
Alors ça, on peut pas dire comme ça. On travaille pas toujours à la même sculpture, on travaille plusieurs. Une, on est en train de poncer, l'autre, on essaye de trouver déjà le début. On ne peut pas parler comme ça. Il y en a que j'ai travaillé plus qu'une année. Et les plus grandes œuvres que j'ai ont 600 et 700 kilos. Wow. Alors ça dure.
Quels matériaux utilisez-vous?
Alors ce sont des arbres indigènes, des fruitiers. J'ai aussi fait des œuvres, des platane du port de Cutrefin qui était tombé par l'Otard en 1999. Là, j'ai reçu les grands morceaux, vraiment grands. Comme j'ai dit, les plus grands, ça fait 600 ou 700 kilos. Et ça, c'est intéressant. Et on ne peut que travailler des grandes choses si on a aussi des outils pour. Parce qu'au début, j'avais que trois ciseaux à bois, un marteau en bois et du papier pour poncer. Ça, c'était mon début.
Pourquoi utilisez-vous ces matériaux?
Le bois?
La sorte de bois.
Parce que c'est très intéressant et en plus ça sent très bon encore aussi. Et moi j'aime bien une finition, j'aime bien qu'on touche mes œuvres, qu'on regarde pas seulement avec les yeux, qu'on regarde avec les mains. Ce qui est interdit normalement, mais pas chez moi.
Où sculptez-vous?
À l'extérieur, toute l'année. Il faut bien s'habiller, c'est tout.
Comment vous organisez votre travail?
Alors, il n'y a pas une grande organisation pour le travail. Il y a seulement une grande pour les expositions. Et les expositions, c'est assez dur parce que j'ai transporté des tonnes et des tonnes pendant toutes ces années que j'ai exposé mes œuvres.
Avez-vous des horaires précis?
Pas du tout. Je suis libre.
Quel est l'événement le plus marquant de votre carrière?
C'était qu'un ami bûcheron m'a dit un jour, « mon Dieu, je ne peux plus te voir, tu avances presque pas avec ton travail, prends une tronçonneuse, comme ça tu avances au moins. » Alors finalement, il m'a vite montré, ça va comme ça, comme ça, comme ça, j'avais encore rien du tout avec, hein, ni casque, ni rien du tout. Alors, fur et à mesure, j'ai quand même appris un peu comment ça se fait. Et après, j'ai découvert que c'est vrai, ça va beaucoup, beaucoup plus rapide, bien sûr. Alors, j'ai pu finir des rêves que j'avais déjà toujours, faire plus grand, plus grand, plus grand, plus grand. Mais maintenant, je suis quand même gentiment un peu âgée. Je vais bientôt fêter mes 74 ans. Et c'est un peu fini maintenant. On n'a plus la force. Et c'est quand même dangereux avec tous ces outils.
Y a-t-il une œuvre que vous aimez plus que tous les autres?
Non, pas vraiment. Parce que chaque œuvre montre un vécu de ma vie.
Donc vous les aimez toutes pareillement?
Oui.
Est-ce que vous continuez à sculpter pour le plaisir?
Non. Je crois que j'ai fait mon travail. En plus, il faut toujours trouver la place pour les stocker, ces œuvres. Et que j'ai déménagé, ça fait pas longtemps, alors j'ai beaucoup, beaucoup lâché. Parce que j'ai pas assez de place pour tout ce que j'ai créé de ma vie. Et maintenant, je me concentre, comme pour le plaisir, je fais des bricolages avec mes petits-enfants, je fais des petits personnages de crèche que j'adore, que j'en ai partout un peu. Mais non, ce travail, je fais plus.
Merci d'être venu à Mombrello aujourd'hui.
Merci à vous.
Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time.
C'était Don't Smokey de Townsend Ice sur Radio Mombrello. On arrive au milieu de l'émission et nous allons laisser notre place à Philémon et Aurélie Rose pour la suite.
Salut Aurélie Rose et Philémon. Merci à tous de nous avoir écoutés. Bonne suite d'émission.
Mmh.
Radio Montréal, il fait toujours beau.
Merci Lou et Valentino.
Le prochain interview est celui de Stéphane Fézy, ancien pilote.
Mais avant cela, écoutons la musique du film Top Gun pour se mettre dans l'ambiance. C'est Danger Zone de Kenny Loggins.
Bonjour, votre fils Philemon nous a parlé de votre formation avec les avions. Pouvez-vous nous en dire un peu plus ?
Alors, mais oui, volontiers. Donc, je me présente peut-être brièvement. Donc, c'est Stéphane, le papa de Philemon, effectivement. Et puis, il y a maintenant bien des années de cela, j'ai eu la passion de l'aviation. Ça a démarré avec le modélisme avec mon frère. On a fait des planeurs en modèle réduit. Et puis par la suite, mon frère m'a incité ou encouragé à faire les sélections pour être pilote militaire. Et c'est comme ça que j'ai débuté mon aventure de pilote à l'âge de 16 ans.
Comment on fait pour devenir pilote ?
Alors il y a différents moyens de devenir pilote, mais en général ça se passe sur des terrains d'aviation privés. Moi j'ai appris à voler sur différents terrains à Porrentruy, à Neuchâtel et puis à Yverdon. Et puis dans la sélection que j'ai fait comme candidat pilote militaire, j'ai volé sur ces trois différents terrains et puis j'ai terminé ma formation sur le terrain d'aviation d'Yverdon. Et puis il y a une partie théorique, c'est un peu comme pour le permis de conduire. Il y a une partie théorique où on doit apprendre les lois physiques, pourquoi ou comment un avion vole. Toute la partie navigation, partie météo, et puis ensuite il y a la partie également pratique. À ce moment-là, j'avais 35 heures de vol au minimum à effectuer pour obtenir la licence de pilote privé.
Combien d'avions avez-vous piloté ?
Alors j'ai volé sur des petits avions biplace ou quadriplace, donc pour deux personnes ou quatre personnes. Et le premier avion que j'ai volé, c'était un Bravo AS-202, le modèle. Ensuite, j'ai volé sur des Robin. C'est un type d'avion. Et sur un Cessna également.
C'était des avions à hélice ?
Oui. Alors, toute la formation de base, et puis même les formations plus avancées, se passe sur des avions à hélice, avec un moteur, une hélice. Et puis au début, c'est deux places. avec d'un côté le moniteur et puis l'élève qui est à gauche pour voler, pour apprendre à voler.
Vous pouviez prendre des passagers ?
Une fois que j'avais la licence de vol, la licence de pilote privé, oui, j'avais le droit de prendre des passagers. Absolument.
Pourquoi avez-vous arrêté de piloter des avions ?
Alors j'ai arrêté de piloter il y a aussi bien quelques années de cela. Pour maintenir la licence, il faut faire un minimum de 12 heures de vol par année. Et puis la licence est valable 2 ans. Donc ça veut dire qu'au bout de 2 ans, on doit prouver qu'on a fait 2 fois 12 heures, donc 24 heures de vol. Et puis avec la famille qui est arrivée, donc je me suis marié, on a eu des premiers enfants, et j'ai moins eu l'occasion de voler, jusqu'au moment où j'étais plus à l'aise en vol, puis j'ai décidé d'arrêter de voler plutôt que de continuer, puis de prendre des risques.
Pensez-vous en piloter un jour ?
Peut-être, ça sera un projet pour plus tard, oui, quelque chose qui pourrait revenir. J'aime toujours regarder les avions, c'est un domaine qui m'intéresse, qui me passionne toujours. Peut-être que je m'y remettrai un jour, oui.
Avez-vous déjà rencontré des problèmes en plein vol ?
Alors oui, j'ai eu une fois un épisode un peu chaud, si je peux dire comme ça. C'était un Cessna qui a le train qui rentre, donc comme quand vous partez en vacances avec les gros avions, les roues elles rentrent dans l'avion. Et puis bah, forcément il faut sortir les roues pour atterrir. Et puis alors que je rentrais à Yverdon avec l'avion, j'ai eu une panne électrique en fait. Puis c'est une pompe électrique qui met la pression hydraulique pour sortir le train, puis le verrouiller pour qu'il soit bien fixé en place. Et puis cette pompe ne fonctionnait plus, puisqu'il n'y avait plus d'électricité. Donc à ce moment-là, j'ai dû sortir, faire la procédure que j'avais appris dans la checklist et puis dans le manuel de l'avion, mais que j'avais jamais fait, parce que normalement, ça se produit jamais. Donc on a un levier à déployer, puis il fallait pomper manuellement pour faire sortir le train, pour activer la pompe hydraulique. Ce que j'ai fait, mais ensuite le train, comme c'est manuel, le train ne restait pas verrouillé en place. Donc là, j'ai surtout prié pour que l'atterrissage se passe bien, puis je suis arrivé tout tranquillement pour éviter de faire rebondir l'avion. Mais tout s'est bien passé, Dieu merci. Mais c'est le seul épisode, je dirais, critique que j'ai rencontré. Ouais.
Quel est votre meilleur souvenir en avion ?
Ah, j'ai deux meilleurs souvenirs. Le meilleur souvenir, ce que j'aimais le plus faire en avion, c'était les vols d'Alpes. C'est-à-dire partir depuis un terrain d'aviation, puis aller se promener sur les Alpes. Puis ça, c'est juste magnifique. On voit tous les sommets enneigés, on voit le paysage, j'ai vu jusqu'à la mer Adriatique, jusqu'à Venise même, depuis les Alpes. C'est juste splendide, c'est magnifique. Donc ça, c'était des vols que j'aimais beaucoup faire, les vols d'Alpes. Et puis un autre beau souvenir que j'ai eu l'occasion de faire un vol jusqu'à Corfou. Donc en Grèce, on était deux pilotes avec un moniteur pour faire une formation avancée en aviation. On a fait Yverdon jusqu'à la Corse, de la Corse jusqu'à Rome, de Rome jusqu'au sud de l'Italie, puis du sud de l'Italie jusqu'à Corfou en Grèce. C'est un voyage de 5-6 jours et c'était aussi un superbe souvenir.
Eh bien, merci Stéphane de nous avoir écoutés et répondu à toutes nos questions. Maintenant, laissons la place aux animateurs. Au revoir.
Au revoir. Merci. Yeah, we'll be counting stars. I see this life like a swinging vine. Swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold, and I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right.
me feel alive. I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. Baby, I've been praying hard, said no more counting dollars. Burn down this river every turn. Hope is our four-letter word. Make that money, watch it burn. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. And I feel something so wrong. We're doing the right thing. I could lie, could lie, could lie. Everything that drowns me.
Merci beaucoup à Stéphane Fézy.
Et c'était Counting Star de One Republic.
Suite à cette interview, nous restons dans le ciel et les étoiles avec un coup de pub.
Notre classe a créé des applications sur l'espace pour les Space Day 2019.
Mais où les trouver ?
Sur le site www.learningapps.org sous la catégorie astronomie. N'hésitez pas à aller les essayer.
Tout de suite, on enchaîne avec la recette de la semaine, présentée par Inès et Noémie.
Radio Montréal, il fait toujours beau.
Coucou Inès, il y a des invités qui viennent chez moi et je n'ai pas de goûter. As-tu une idée de recette ?
Salut Noémie, oui, il y a garde la banane, c'est pour 6 personnes, ça prend 10 minutes. Pour ça, il te faut 3 bananes, 200 g de chocolat au lait, des perles en sucre, une grande tasse, 6 bâtonnets en bois et du papier cuisson.
C'est nickel, j'ai tout.
J'ai une astuce, mets du sucre pétillant sur les bananes pour obtenir une explosion en bouche.
Ah oui, je la connais. En premier, place le chocolat dans une tasse haute et fais-le fondre au micro-ondes. Pèle les bananes, coupe-les en deux, puis enfonce un bâtonnet dans chacune. Trempe-les entièrement dans le chocolat fondu. Je crois que c'est tout.
Non, ce n'est pas tout. Décore-les avec l'ingrédient de ton choix, puis laisse le chocolat durcir avant de déguster.
Bon appétit.
Yeah, yeah, yeah.
Rentrer dans ma vie comme dans un freestyle. T'as voulu qu'on s'évade comme Bonnie and Clyde. J'ai voulu percer ton cœur en titane. J'ai vite compris que je n'étais pas taille. Baby, alors, on va où? On fait quoi? On s'enfuit, loin d'ici, on y va. On est si différents, c'est ce qui nous attire. Bang, 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 autour ça tire. Viens avec moi si t'es prête à partir. Je veux pas rester là, ils veulent nous asservir. Baby, alors.
Sexy raffine,
sexy raffine,
sexy raffine,
sexy raffine,
sexy raffine,
chocolat, chocolat,
c'est comment tu es, assassiné, sexy raffine, comme dans les films au ciné.
Sur moi, il m'a eu, oh. Mais je n'ose pas lui dire qu'il compte pour moi. Je l'avoue, oh. Qu'il en faut plus pour partir avec moi. Même si au fond je le veux, hey. Prends les devants et fais-moi rêver. Oui, j'ai réuni toutes mes affaires. On va où, on fait quoi, on s'enfuit. On s'en va sans pour autant tout foutre en l'air. Une voix me dit non, n'y va pas. D'un côté j'ai peur de me tromper sur lui, mais d'un autre je sais qu'il m'a conquise. Bon, on y va. Je m'en montrerai les doigts.
Sexy raffine.
Sexy raffine.
Sexy raffine.
sexy raffiné.
Chocolat,
chaud, 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 chocolat. Chaud, 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 chocolat. Chaud, 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 chocolat. Chaud, 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 chocolat.
Merci Noémie et Inès, vous nous avez mis l'eau à la bouche.
Après cette délicieuse recette, c'était une chanson de l'artiste. Le titre était Chocolat.
Aurélie Rose, tu sais ce que c'est une guitar box ?
Non, et toi ?
Non plus, mais notre prochain invité, Monsieur Pierre-Invin Kelried, va nous expliquer.
C'est Victor, Julie et Cassandra qui vont l'interviewer sur sa passion des guitar box.
Chouette ! En attendant, on se met dans l'ambiance avec un super morceau de guitare interprété par Jimi Hendrix. C'est le titre Gypsy Ace.
Searching for your love and my soul too.
Bonjour, aujourd'hui nous allons accueillir Monsieur Pierre Imwinkelried sur le plateau. C'est un passionné de guitar box.
Bonjour Monsieur Imwinkelried, pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Oui, bien sûr, je m'appelle Pierre Imwinkelried, j'habite Montbrillo. Mon métier avant c'était instructeur de plongée, j'ai travaillé longtemps dans les îles. Et voilà, en principe, c'est tout quoi.
Alors d'abord, qu'est-ce qu'une guitar box ?
Alors bon, une guitar box, on dit une guitare cigar box. Mais bon, on peut dire guitar box. C'est-à-dire, c'est un instrument qui a été copié un peu sur les instruments africains. Ça a commencé dans le Mississippi, où le blues en fait a débuté, le Mississippi blues, le Delta blues. Et là, les esclaves noirs, qui n'avaient rien, mais absolument rien, pour jouer, prenaient un peu n'importe quoi. Et le bonheur qu'il y a eu, c'est que les grands propriétaires fumaient des gros cigares et jetaient les boîtes à cigares. Et qu'est-ce que tu fais avec une boîte qui a de la résonance ? Hein ? Tu t'amuses, tu fais une guitare. Puis ça a été vraiment copié sur les guitares, les instruments africains. Voilà comment ça a débuté. C'est rentré un peu dans les mœurs du blues pendant pas mal de temps. Ça a été oublié dans les années 60, 70, 80. Puis maintenant, ça reprend. Il y a des orchestres, des groupes. C'est un instrument qui va très bien pour le blues, pour répondre à d'autres musiciens dans les solos, etc. Voilà.
D'où vous vient cette passion ?
Alors, j'aime bien la musique. Bon, j'aime bien la guitare, mais j'ai jamais eu vraiment le temps de... J'ai eu pas mal de guitares, mais j'ai pas eu le temps vraiment de jouer de la guitare. Et puis, bon, après, comme je suis un peu fainéant, je me suis dit, ben, il faut simplifier, quoi. Puis je me suis mis avec cette guitare, quoi.
Comment faites-vous pour transformer une boîte de cigares en une guitare box?
Alors, vous prenez il y a un manche, il y a la boîte, vous pouvez faire des trous de résonance. Et là, maintenant, on met des micros, et puis vous mettez les cordes, et voilà.
Où vous procurez-vous votre matériel?
Alors, vous savez, on est très généreux par là, parce que vous allez dans un magasin de cigares, etc., puis on vous donne les boîtes, parce qu'ils les jettent aussi, comme dans le temps.
Connaissez-vous d'autres personnes qui construisent des guitar box?
Oui, il y en a pas mal. Oui, il y en a pas mal maintenant. Ça devient vraiment la mode. Il y a quelques groupes en Suisse romande, en Suisse allemande aussi, qui jouent, qui tournent. Et il y a des artistes qui ont pris la cigar box comme musique, comme instrument d'accompagnement. Et c'est un instrument qui va très bien un peu partout, si on veut. C'est un peu comme chanter, c'est pour répondre à un autre instrument, c'est pour répondre à la fin d'une phrase, dans un chant, ou comme ça, ça va très bien.
Avez-vous une anecdote à nous raconter?
Oui, bien sûr. Alors, j'ai fait des jams avec, c'est-à-dire, c'est des scènes, par exemple, dans un blues club comme à Fribourg, où il y a des artistes, des grands artistes de blues, comme Bob Stroger, là, qui m'a dédicacé cette guitare. Où j'ai eu l'honneur de jouer avec eux, de répondre à leur musique, etc. C'est des moments absolument fantastiques.
Que faites-vous de vos guitar box?
Je les donne.
Combien de temps ça vous prend de construire vos guitar box?
Alors, on ne peut pas parler de temps. Je le fais quand j'ai du temps, en fait. Ça me prend peut-être une année, ça me prend un mois, je peux en faire en une semaine. C'est plutôt l'inspiration, parce que chaque cigar box est différente. Je fais toujours sur le moment. Tiens, je vais en faire une comme ça, je vais en faire une comme ça, et puis voilà, quoi.
Avez-vous un atelier où vous faites vos guitar box?
Oui. L'été, l'hiver fait trop froid.
Pensez-vous continuer à construire vos guitar box?
Bah, jusqu'à ce que je peux, hein. Donc, peut-être qu'un jour, j'arriverai plus, mais bon, oui.
Pour finir cette interview, pouvez-vous nous jouer un petit morceau de guitar box?
Bien sûr. Alors, je joue juste 2-3 notes. Ça vous va?
Ouais. Merci à vous d'avoir accepté de répondre à nos questions. Au revoir.
Au revoir.
Au revoir.
Merci, c'est sympa. We can do what we want. We don't need big walls. We make the rules and laws. We can do no wrong. You ready, you get it, yeah, I love your letters, we're melodramatic, and you are my heaven, 24/7, I need your honey, I need your lemon, I don't need another reason, you're enough for me, let's make some memories, e non c'è bisogno di niente, ai, 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 quando la notte ti prende, ai, 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 trecce nella savana, tutto girava, già buona, dicevi tu, guardando me.
E tu dimmi che vuoi restare con me se il mare è blu, vuoi andarci con te e non c'è bisogno di niente. Quando la notte ti prende, trecce nella sabbia.
E non c'è bisogno di niente, ai 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 ai, quando la notte ti prende, ai 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 ai, tra il cielo e la savana, tutto girava, già un po' buona, dicevi tu, guardando me.
Merci Pierre Imwinkelried, c'était Jumbo de Tatagi et Ketra.
C'était la classe 7-8-HO de Mombrello et nous arrivons au bout de notre émission. Vous pouvez retrouver le podcast de notre émission dès le lundi 16 mars sur le site radiobus.fm.
Nous voulions encore remercier tous nos invités, Pierre-Yves Winkelried, Katharina Rufnart, Stéphane Fézy et Marie Boin pour leur participation.
Oui, nous avons appris beaucoup de choses grâce à eux.
C'était Radio Mombrello, la radio il fait toujours beau.
Passez une bonne journée.
Radio Mombrello, il fait toujours beau.